Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous avez, je pense, reconnu ce très beau cantique de Siméon. Le vieillard Siméon remercie Dieu de lui avoir permis de voir le Sauveur du monde avant de mourir. Siméon apparaît dans l'Évangile lors de la présentation de Jésus au Temple, puisque c'est lui, Siméon, qui va accueillir Marie et Joseph pour cet acte qu'ils doivent accomplir 8 jours après la naissance de leur fils, Jésus, en observation rigoureuse de la loi de Moïse. Et c'est avec Lucie Lehoux, mon invitée du jour, que nous allons regarder avec vous, chers auditeurs, la fresque qu'a peinte le peintre italien Giotto di Bondone en 1306 à Padoue, dans la chapelle des Scroveni, dite chapelle de Maria Arena. Bonjour Lucie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Voilà, alors, chers auditeurs, si vous voulez suivre cette émission avec la reproduction de cette œuvre sous les yeux, tapez Giotto, G-I-O-T-O, présentation de Jésus au Temple. Et je pense que vous trouverez l'image facilement. Alors, Giotto di Bondone est le peintre italien à partir de l'œuvre duquel l'histoire de l'art de la peinture va prendre un tournant décisif pour l'avenir. Élève de Cimabue, avec lequel il va décorer la basilique inférieure d'Assise, Giotto se détache de l'influence byzantine, léguée par son maître, pour innover et mettre en avant les sentiments humains dans la peinture religieuse. Procédé audacieux dans ce siècle-là, mais qui va ouvrir la voie au Michel-Ange, au Raphaël et autres Léonard de Vinci. Ce n'est pas rien. Il va ouvrir la voie un siècle en avant, avant la Renaissance italienne.
Et il a été reconnu par Léonard de Vinci, un siècle plus tard, comme étant ce grand rénovateur.
Voilà, voilà. Et à l'apogée de son art, Giotto devait avoir dans les 40 ans, Giotto va recevoir une commande du seigneur Scroveni de Padoue pour décorer la chapelle qu'il a faite construire près de son palais et dédiée à la Vierge Marie. Et c'est ainsi qu'est née, chers auditeurs, la première bande dessinée de l'Histoire sainte. Sur 3 côtés de la chapelle, Giotto illustre la vie de la Vierge, celle de Joachim, son père, et celle du Christ. Il ne laisse aucun centimètre carré vide. Déclinant les 3 cycles de vie en panneaux réguliers et chronologiques, c'est un véritable film qui se déroule sous les yeux des visiteurs.
Un film bleu et également sur la voûte.
Eh oui, étoilé. Et la présentation de Jésus au Temple se trouve sur la paroi sud de la chapelle, entre l'adoration des mages et la fuite en Égypte. Alors, Lucie Lehoux, vous avez presque commencé à le dire, pourquoi Giotto ?
Pourquoi Giotto ? D'abord, j'aime beaucoup Giotto, j'aime beaucoup les bleus de Giotto. Mais là, il y a eu un hasard. J'ai cherché sur Internet et j'ai découvert cette chapelle dont j'avais entendu parler, mais j'ignorais qu'elle donnait autant d'exemples illustrés de la vie de Jésus. Alors, ce qui est intéressant dans cette chapelle, justement, c'est que tout se déroule de façon chronologique et que cette illustration de l'Évangile, puisque la présentation de Jésus au Temple, qui est une obligation pour tout enfant, pour les parents de tout enfant juif, cette présentation doit avoir lieu dans les 8 jours de la naissance. Et les parents, donc Marie et Joseph, se rendent modestement à la synagogue pour présenter Jésus. Et là, par hasard, vous avez parlé de Siméon tout à l'heure, mais par hasard, organisé par le Saint-Esprit, il a été averti que sur lui reposait la possibilité de voir le Seigneur qui serait donc le sauveur du peuple d'Israël. Siméon est là. Il y a également une autre personne, oui. une femme, dite une sainte femme, qui s'appelle Anne, qui est, prophétresse de la tribu d'Azer, donc une des tribus juives. Et ces deux personnages apparaissent dans le tableau de part et d'autre, d'une sorte de petit monument vers lequel se présentent Joseph et Marie, portant l'enfant. Et au niveau de ce petit monument, Siméon arrive et Anne arrive derrière lui. Donc un tableau, quatre personnes, plus le Christ, et plus peut-être une servante qui suit le couple des parents. C'est très modeste comme spectacle, comme peinture, mais il y a une intensité dans les regards, dans les couleurs, qui fait que cette œuvre, isolée, puisque on l'isole par rapport à l'ensemble de la chapelle, est extrêmement émouvante. Il y a le geste de Siméon qui prend l'enfant dans ses bras. On voit la mère, Marie, qui vient de le donner à Siméon. Elle a encore les bras tendus. On voit Anne, la prophétesse, qui tend son bras dans un geste de bénédiction ou d'accès vers cet enfant. Et cette scène se déroule donc sous ce petit pavillon, petit édicule. Et il y a aussi un ange. Donc dans ce tableau, il y a une femme dont on ignore le rôle, qui est peut-être une servante ou peut-être quelqu'un qui était là par hasard, Joseph, Marie, Siméon qui porte le Jésus et Anne, la prophétesse.
Voilà. Alors, c'est vrai que tout y est par rapport à l'Évangile. Tout y est, rien ne manque et il n'y a rien de plus.
C'est très...
C'est Giotto.
C'est Giotto.
Voilà. Il est fidèle à l'Évangile.
Voilà, c'est son côté, là je vais peut-être être iconoclaste, un peu bande dessinée.
Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Ah, c'est une bande dessinée. C'est une véritable bande dessinée.
C'est une véritable bande dessinée.
Alors c'est vrai que si l'on reprend les personnages, il y a les quatre essentiels, enfin les trois essentiels, Marie, Joseph et Siméon, plus Jésus, bien sûr. La prophétesse Anne, qui va prédire à la Vierge tout son avenir et ses souffrances.
Et qui n'est pas un avenir heureux.
Heureux, voilà. Et la personne qui est tout à fait à gauche, normalement, tient un cierge. Mais le cierge a été effacé.
Ah !
Et évidemment, Siméon parle de lumière du monde.
Oui, oui, alors ça m'avait voilà. échappé.
Et à la fois, elle représente le peuple de Dieu, le peuple juif, hein, en l'occurrence.
Mais l'ensemble de l'humanité.
Mais par la suite, l'Église.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est tout y est. Tout y est. Il n'y a rien de plus à dire. Alors, le petit édicule représente le temple, bien sûr. Dans lequel se déroule la scène. On peut aussi penser à l'autel, puisqu'il y a une nappe qui recouvre une table au milieu de l'édicule. Donc, on est vraiment dans un sanctuaire.
Minimal, mais cela voilà. correspond à l'histoire du culte.
Oui, du culte, voilà. Parce que, par la suite, dans le rite romain, eh bien, l'autel va représenter le Christ.
Absolument.
Donc, nous sommes tout à fait dans la norme évangélique et traditionnelle de l'Église. L'Église au sens large, l'Église juive d'abord et ensuite l'Église
romaine catholique. C'est la rencontre entre les deux Églises.
Voilà.
Bien avant que le Christ se prédise,
voilà.
Il y a déjà quelque chose.
C'est la suite des choses, la suite logique des choses. Alors, vous avez parlé du bleu qui forme le fond de la scène. Il n'y a que ce bleu. On n'est pas distrait par autre chose, non. À part le petit ange qui volait à droite et qui représente aussi le lien entre le ciel et la terre et l'approbation du ciel et puis le Saint-Esprit bien sûr mais ce bleu profond est vraiment bleu, il n'est pas noir, il n'est pas sombre, il est joyeux,
c'est un signe d'espoir, ce bleu.
Voilà,
ça, on pense à un petit matin avec un soleil qui va se développer, qui va monter aux cieux et qui va devenir très lumineux. On a vraiment l'impression d'un commencement.
C'est ça. Et oui, une page se tourne.
Une page se tourne.
Une page se tourne. Et le Nouveau Testament commence.
Là.
Voilà.
Alors, il faut dire, du reste, que, puisqu'on parle du Nouveau Testament, dans les évangiles, seul Luc parle de cet événement.
Oui. Oui. C'est l'enfance de Jésus. Luc
c'est l'enfance de Jésus, qui n'a pas été développée par les autres auteurs des évangiles.
Mais c'est quand même important, puisqu'il fait le lien entre la tradition juive et justement la future tradition...
C'est le point le plus important.
Voilà. Chrétienne. Mm-hmm. Voilà. Alors, si on revient sur l'attitude des personnages, on dit que donc Giotto a importé, a innové avec les sentiments humains, hein, caractère humain. Avant, évidemment, les personnages étaient représentés très droits, hiératiques,
très figés.
Les visages n'avaient aucune expression. Ils étaient souvent de face, manière byzantine. Là, l'humanité perle dans cette représentation.
C'est une représentation, effectivement, de différents personnages dont on voit les sentiments.
Voilà, pour tous les personnages.
Pour tous les personnages. Y compris la dame qui devait porter...
Qui portait le cierge.
Le cierge. Elle est très concentrée sur ce qui se passe.
Voilà, et puis elle a un visage attendri par la scène qu'elle a de sous les yeux. Mmh. Et puis elle est pas droite, elle est un peu déhanchée, elle est un peu... Voilà. Saint-Joseph... Il tient dans ses mains les deux colombes.
Les deux colombes qu'il était convenu d'apporter pour la présentation d'un enfant.
C'était l'offrande.
Ouais, c'est l'offrande naturelle.
Par les parents. Mais il les a prises dans ses mains. Elles ne sont pas dans une cage. Il les a prises dans ses mains et il les caresse. Chouchoute. Voilà, quant à Marie, évidemment, c'est la mère, vraiment, qui tend les bras vers son fils, qu'elle vient de confier... à ce vieillard.
Et qu'elle est prête à reprendre immédiatement.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, l'enfant tend les bras vers elle.
Absolument.
Hein, parce que peut-être que ce vieillard à la grande barbe lui fait un peu peur.
Absolument.
Voilà, voilà. Mais, et justement, le bébé est représenté comme un bébé normal.
Enfin, tout à fait.
C'est pas, voilà, il a beau être auréolé comme ses parents et comme Siméon, eh bien... C'est vrai que c'est le Christ, mais c'est un bébé normal,
alors,
humain.
Il y a le dernier personnage, Anne, qui, moi, m'interpelle, parce qu'elle a une posture particulière. Elle est à la fois un peu tendue, elle a la main vers le Christ, elle ne l'a pas touché, elle ne l'a pas eu dans ses bras.
Non.
Et elle est très concentrée dans son regard.
Oui, c'est-à-dire, oui, elle est concentrée.
C'est une prophétesse.
Oui.
Alors... Que c'est-elle ?
Et elle va le dire à la Vierge. Elle va le dire à la Vierge ce qui l'attend.
Elle va lui dire qu'elle va
souffrir. Donc elle sait ce qui l'attend, ce qui attend Marie.
Elle sait.
D'ailleurs, c'est écrit en partie sur ce qu'on appelle un phylactère.
Oui, c'est-à-dire, pas facile à lire quand
voilà,
même.
Voilà, non, pas du tout. Et, oui, j'ai essayé moi de lire, mais j'y arrive pas. Et elle lui promet toute la souffrance... de la vie de Jésus, à commencer par la naissance dans des conditions quand même difficiles. Ensuite, la perte de Jésus à 10 ans dans la synagogue. Voilà, c'est une souffrance, parce que pendant 3 jours, ils l'ont cherché.
Ils l'ont cherché, absolument. Hein,
voilà. Et ensuite, évidemment, la vie de Jésus, les divers miracles, et puis la passion, surtout. Hein, la passion. Et la mort de Jésus...
Elle ne voit sans doute pas de façon très précise, mais elle voit la souffrance, elle voit l'importance de la présentation de cet enfant qui est le Christ. Et en même temps, comme Siméon, elle remercie le ciel.
Oui, elle remercie le ciel de la main droite. Elle dit, bon, ben voilà, ça va se passer, mais ça finira par une belle chose, la résurrection.
Absolument.
Et Siméon aussi, Siméon approche son visage du bébé. Du bébé, comme s'il voulait l'embrasser.
Vous voyez, je suis plus frappée par le regard qu'il porte sur
le
bébé.
Voilà, il le regarde.
Il le regarde avec une intensité. Et on a presque l'impression que l'enfant et Siméon échangent.
Oui, oui. Les regards
se croisent.
Se croisent, oui, absolument. Absolument, mais c'est tendre.
Ah,
c'est plein de tendresse.
J'y vois en plus de la tendresse et de l'attention, une compréhension mutuelle.
Oui.
Ce qui est quand même tout à fait étonnant pour une rencontre entre un nourrisson et un adulte.
Et oui, surtout un vieillard.
Enfin, un vieillard.
On sait que générations sautent et que entre grands-parents et petits-enfants, l'entente est meilleure qu'avec les parents, mais
mais là, voilà. Ils ne se connaissent pas, c'est un
oui,
premier
c'est
regard
ça.
Quand même.
Là ils ne se connaissent pas et mais Siméon remercie le ciel d'avoir permis justement qu'il voit enfin le sauveur du monde et le Messie.
Mais qui sera en but à la contradiction et à la souffrance.
Et oui. La prophétesse Anne est là pour ça. Et quant au petit ange, ben lui aussi, il porte un cierge venant du ciel.
Parce que c'est un moment important.
Et oui. Et puis, la lumière du monde, il faut bien montrer que ça vient du ciel. Hein. Voilà. Bon, que dire d'autre donc
va dire quand même que Giotto a été un précurseur.
Oui.
Il a révolutionné la peinture. Il a créé un nombre d'œuvres extrêmement important. Et on sent le passage entre une peinture plus traditionnelle, plus médiévale.
Oui. Oui.
Moins mobile.
C'est ça.
On passe à une peinture
très rigide,
vivante,
oui,
avec des regards, voilà. Avec des gestes qui ont un sens et qui n'est pas forcément un sens convenu depuis très longtemps, comme les icônes. Donc c'est vraiment une peinture extraordinaire et en plus une peinture qui a été multiple. Il y a eu un nombre de les œuvres de Giotto sont vraiment très très nombreuses.
Je parlais tout à l'heure de la basilique inférieure d'Assise, mais il y a la basilique supérieure que Giotto a peinte aussi dans des panneaux également, sous forme un peu de bande dessinée également, mais pour des panneaux un peu plus grands.
Et c'est peut-être Léonard de Vinci qui a le mot de la fin, disant un peu plus d'un siècle après la mort de Giotto, disant « Nous voyons des peintres qui suivirent les Romains et qui s'imitaient toujours l'un l'autre et l'art déclinait d'âge en âge. Après eux vint Giotto de Florence, qui ne se contentait pas d'imiter les ouvrages de son maître Cimabue, et étant né dans la solitude des montagnes habitées seulement par des chèvres et d'autres bêtes, ce Giotto était porté à cet art, la peinture, par sa nature. Il commença à dessiner sur les pierres les attitudes des chèvres qu'il gardait. Il se mit à représenter tous les autres animaux qui se trouvaient dans cette région. Et puis, il dépassa non seulement tous les maîtres de son époque, mais aussi tous ceux des siècles antérieurs.
Et oui.
Et cette peinture nous touche toujours d'une manière profonde. Par sa simplicité et sa réalité.
Oui, mais sa finesse aussi, parce que il faut voir aussi les mouvements
détail,
des drapés des tissus qui ne se faisaient pas avant. Voilà. Et c'est là que Giotto est vraiment novateur et qu'on va le suivre, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il va falloir un siècle avant que tout ça se développe.
Et alors, vraiment. Pour la petite histoire, il convient quand même de dire que la chapelle des Scroveni a été construite avec de l'argent pas très honnête.
Oui, on dirait de l'argent sale maintenant.
L'argent sale, absolument.
C'était un usurier.
Le père était un usurier et je pense que celui qui a commandé la chapelle dont le prénom m'échappe avait suivi la voie de son père.
Et oui, voilà. Voilà. Bon, oui, mais je recommande vraiment à tous nos auditeurs que si vous en avez l'occasion de visiter cette chapelle des Scroveni à Padoue, ça vaut vraiment le voyage et c'est une exceptionnelle œuvre picturale. C'est
absolument.
Certain.
Et puis il y a cet ensemble de l'église. J'imagine, puisque je n'ai pas eu la chance de visiter cette chapelle, que lorsqu'on entre dans cette chapelle, on est sous le charme de toutes ces couleurs, ce bleu, et puis cet arrangement très didactique de l'histoire de Jésus et d'autres.
Voilà, de Joachim,
de
la Vierge
et
du Christ. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, pour nous avoir partagé vos connaissances sur cette présentation de Jésus au temple de Giotto. Merci à Maëlle pour l'assistance technique et merci à vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez fidèlement. Vous pouvez nous retrouver en podcast pour cette émission et pour les précédentes, tapant Radio Présence Cahors, découverte. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle page des Arts Sacrés.
Au revoir.
Au revoir.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.